originale. Soyez les bienvenus avec Léna Kadomoudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour à tous.
Daniel Morin. Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et nos invités sont Sylvie Vered et Afsia Herzi. Merci mesdemoiselles de venir, merci de venir nous présenter Sex Doll, le cinquième film de Sylvie Vered, avec comme héroïne, elle est pratiquement d'ailleurs de tous les plans, Afsia Herzi. J'espère que vous avez bien compris, Père Albert, pourquoi nous les avions invités aujourd'hui.
Mais évidemment que j'ai compris, puisque je suis sûrement le seul assis à cette table à savoir apprécier le cinéma de qualité, ce qui me permet de vous apprendre que Afsia Herzi est une comédienne OG subtile. Bonjour Afzia. Bonjour. Et Sylvie Vered, une réalisatrice talentueuse, comme le montre d'ailleurs Sex Doll. Bonjour Sylvie. Le film qu'elle vient de nous présenter aujourd'hui.
Vous leur faites peur apparemment, mon père.
C'est le but. Je sais, Nangui, qu'eu égard à mon sacerdoce supposé me tenir à l'écart de tout commerce charnel, vous vous dites qu'il serait incongru que je tente de résumer une telle histoire. Celle de Virginie, jeune prostituée dite « de luxe », dont les amours tarifés sont remis en question par l'irruption dans sa vie de l'amour véritable, en la personne d'un étrange jeune homme, encore plus tatoué que M. Pokora, un certain Roupette, qui a une mission dont, suspense oblige, je ne révélerai point la nature. Petite parenthèse,
c'est pas Roupette, hein, c'est Rupert.
Ah, on prononce comme ça.
Oui, oui, Roupette, c'est autre chose.
D'accord. Ah, vous êtes snob. Moi, je l'ai, Rupert. Petite parenthèse, permettez. De même qu'il y a des montres de luxe, des voitures, des hôtels de luxe, et même des baskets de luxe, comme les 750 paires que possède Nagui, il y a aussi des putes de luxe, que peuvent se payer des clients fortunés. Fortunés socialement, mais misérables sexuellement. Puisque s'ils ne l'étaient pas misérables sexuellement, ils n'auraient pas besoin de se payer ces sex dolls, ces poupées sexuelles, dont Virginie, incarnée par Afzia, est un exemple émouvant. Mais oui, émouvant, car l'on comprend très vite que le statut dont elle se targue, je suis indépendante, je sais me faire respecter, je gagne très bien ma vie, est d'une fragilité extrême. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film qui pour moi est une parabole évangélique. À l'évidence et à mes yeux, Virginie est la réincarnation de la pécheresse Marie-Madeleine, dont elle a le charme et la splendide chevelure ondulante. Quant à son Roupette, il a tout tatouage excepté.
Rupert,
il a tout au sens propre et figuré de notre sauveur, un côté christique. Pour ma part, je vais vous faire une confidence. Bien sûr, j'ai dû me faire violence pour regarder certaines scènes, disons, un peu cruaux, des messieurs rougeaux, bedonnants, ventripotents, se laissent aller sans vergogne à leur penchant dégueulasse. En revanche, quand le jeune Roupette vient à corriger le salopard qui sert de chauffeur à la mère Mackerel, j'avoue que je n'ai pas boudé mon plaisir, car fallait voir comme il le tabasse. En le voyant faire, j'aurais aimé pouvoir me sacrifier en expiant à sa place, à la place du méchant. Et alors j'aurais crié en anglais, car la scène se déroule à Londres. Yes, come on you filthy beast, boot me, beat me, bomb me, eat me, punch me, wound me, treat me like a tart, get your revenge. Amen. Voilà, mesdames. À présent, je vous laisse face à Nagui qui, en matière de sex doll, en connaît un sacré rayon. Et beaucoup plus long qu'ils ne veulent laisser croire.
Dis donc.
Merci, d'ailleurs. La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Sex doll, d'ailleurs, Sylvie, c'est plutôt la poupée gonflable que la prostituée de luxe.
Oui.
C'est une poupée doll.
Oui, mais en fait, la première scène du film, en fait, elle est... Afzia est transformée en poupée par un des clients. Donc voilà, c'est vraiment une poupée sexe.
Et de se demander d'ailleurs si elle ressent même quelque chose, si elle pense quelque chose, s'il se passe quelque chose dans son cœur ou dans sa tête, puisque la manière dont ses clients, de luxe ou pas, traitent ces êtres humains, c'est justement sans s'intéresser à ce qui peut être ressenti ou vécu dans le...
Exactement. Et c'est d'ailleurs, elle se conditionne comme ça en fait.
Qu'est-ce qui vous a... la naissance de ce projet, Afsia, la première fois que vous en avez entendu parler, c'était il y a longtemps, vous l'avez croisée presque par hasard dans une soirée pour aller la saluer, la féliciter, la complimenter sur le film que vous aviez fait avec Charlotte Gainsbourg.
Et, non. C'était Stella, en fait.
Ah, pardon.
Avec une petite fille, oui.
D'accord, pardon. Je croyais que
c'était
sur confession.
C'était après, ouais.
D'accord. Enfin bref, vous allez la féliciter en disant j'aime beaucoup ce que vous faites.
Ouais. Elle m'a flattée.
Voilà.
Ça marche.
Oui. Elle m'a pas calculée.
Elle vous a pas calculée. Elle a juste dit merci et au revoir.
Même pas, mais merci, mais bizarre et tout. Après, bon, elle est bizarre, tant pis. J'ai ma foi, les gens dans ce métier, hein, donc, ça pète un peu, mais bon, c'est pas grave. Et voilà.
Et quelques temps après, même longtemps après, elle vous contacte. Et en fait, ce projet, vous en avez entendu parler il y a combien de temps? Un an, deux ans?
Je pense deux ans, oui, c'est ça. Mm-hmm. Avant qu'il se fasse, ouais, deux ans, parce que ça a eu du mal à se monter. Et du coup, voilà.
Est-ce que vous avez hésité?
Pas du tout. Bah, déjà, j'aimais beaucoup l'univers de Sylvie. Et après, on a appris à se connaître, donc voilà, j'avais encore plus envie. Le personnage, magnifique, donc oui, pour une actrice.
Il fallait avoir confiance. Incroyable. Et vous vous êtes pas posé la question après la Polonie de Bonello, vous avez dit, je vais peut-être pas non plus faire que des rôles de prostituées au cinéma, il y a d'autres.
C'est pas pareil. Dans Bonello, ça se passe dans une autre époque, c'est dans un bordel, c'était différent et c'est deux cinéastes différents.
C'est pas pareil. Là, c'est dans un bordel.
Là, c'est un particulier.
Et là, c'est Call Girl. C'est Call Girl, c'est plutôt à Londres. Donc, l'histoire de cette jeune fille française qui cache évidemment à ses parents ce qu'elle fait en Angleterre. Elle est dans une agence de call girl plutôt chic, tenue par
l'excellente Carole Rocher.
Carole Rocher qui joue le rôle de la dame Macrel, qui place les filles. Oui, mais de toute façon, vous avez déjà travaillé ici avec Carole.
Oui, en fait, j'ai toujours travaillé avec Carole.
Toujours.
Dans tous mes films, il y a Carole.
Comme ça, on est rassuré au moins.
Voilà, elle est là.
Il y a des repères.
Et
donc cette dame Macrel fait une espèce de transmission, c'est-à-dire voit en vous une potentielle remplaçante et vous confie une jeune fille à peine majeure, j'ai l'impression. C'est même frappant, choquant et gênant de voir une aussi jeune fille se retrouver dans un réseau de prostitution, tellement tétanisée d'ailleurs par le poids de ce qu'elle va vivre, qu'elle ne dit même pas un mot, même entre prostituées ou avec cette dame Macrel. Et vous allez la prendre sous votre aile, mais ça va pas aller aussi bien que ça. Ouais. C'est une fille paumée qui a tout pour elle. Elle a l'argent, elle a la beauté, elle a la santé, mais elle a pas l'amour.
Non, elle n'a pas l'amour. Elle n'a jamais connu l'amour. Et on s'imagine qu'elle n'a pas eu une enfance très facile. Du coup, elle est perdue, seule. Et elle pense que...
Elle a grandi dans une fratrie. Elles sont huit.
Six, ouais, c'est ça. Six, ouais. Je crois, ouais. Je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est huit,
puisque votre petite sœur vous rejoint à Londres.
Personne n'a vu le film autour de ça.
Moi-même.
Vous lui cachez ce qui se passe.
Oui.
Mais il y a aussi ce prince charmant joué par H. Alors, je sais pas comment on prononce.
Stimest.
Yes. Voilà. H. Stimest, comédien clairement anglais, légèrement bilingue. J'imagine qu'il a dû prendre quelques cours de français. En tout cas, il y a quelques répliques en français. Suffisamment cute. Mais c'est vraiment, c'est un conte de fées. Trash, mais un conte de fées.
Oui, une romance, je trouve, je pense.
Enfin, oui, en fait, le sujet était assez dur, à la base. En fait, mon propos, c'était d'en faire un conte. Voilà. Et mon idée, c'était que c'était deux enfants perdus dans un monde de putes.
Ça, c'est voilà.
Fin de cette émission, je vous souhaite une bonne journée.
C'est un bon point de départ.
Elle vient de le dire.
Pour moi, c'est clair.
Et l'incarnation de ce personnage, Avzia, qui s'appelle Virginie, mais qui en fait s'appelle Malika, si on va un peu plus loin dans le film.
Virginie ayant pour étymologie vierge, quand même.
C'est, oui, voilà. Oui, donc symboliquement, ça marche quand même plutôt bien. Ah. Vous voir confier un rôle comme ça, comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition? En plus, il y a des scènes très, très.
Explicites.
Explicites, ou en tout cas, où le corps est vraiment.
Ou voilà. Trop catholique, ça dépend si c'est le père Albert qui.
Offrez-moi les malins au mois de juin prochain. Offrez-moi vos malins.
En tout cas, votre corps est mis à l'épreuve et très sollicité.
Je l'ai très bien accueilli. J'étais prête psychologiquement et de toute façon, j'étais heureuse, contente. Et quand on joue, en tout cas moi, je joue avec mon corps. Donc après, il m'appartient plus pendant le film, pendant les prises et voilà. Donc c'est, on va dire, le corps sans trop intellectualiser parce que j'aime pas, mais le corps du personnage. Quoi.
Pour appeler un chat un chat, faire des scènes nues ne pose pas de problème ou il y a quand même, vous avez besoin d'être rassuré sur la manière dont ce serait filmé et l'esthétisme.
Avec un personnage comme ça et une histoire comme ça et avec Sylvie, ça me pose pas de problème. Après, c'est sûr que si demain quelqu'un qui vient de nulle part va m'appeler, va me dire écoute, j'ai un rôle pour toi, il faut te mettre à poil, tout ça. Là, oui, ça va me poser problème.
Daniel, range ta caméra, elle est pas d'accord, elle est pas prête.
D'ailleurs, vous êtes n'êtes pas nu, en fait, vous n'êtes pas nu dans le film.
Non, c'est vrai que quand il n'y a pas de vêtements...
Non, mais c'est pas suggéré que montrer.
C'est suggéré.
Elle garde quelques vêtements, mais qui ne sont pas ni sur la poitrine.
Non, mais en tout cas, en plus, c'est des vêtements très habillés, quelque part. Le paradoxe est là, en fait. Il y a une vraie tenue, n'est-ce pas, Sylvie?
Exactement. Elle a sa tenue de scène, en fait.
Elle est dans son rôle.
C'est le jeu de rôle.
Elle est dans son rôle, en fait. Elle est dans un rôle.
De toute façon, c'est ça, c'est le métier, enfin.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde des call girls londoniens? Parce que j'ai l'impression que la ville aussi est un personnage.
Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, Londres, c'était pour moi le comme les États-Unis pour certains, en fait, c'est voilà la ville où tout se passe, etc. Donc j'ai gardé ça.
Plutôt pop, rock et artistique.
Exactement. Ouais. Et donc juste avant,
j'ai maintenant fait... la city, l'argent et
exactement.
Les prostituées.
Donc en fait, ça a lié les deux choses, c'est-à-dire ma fascination pour Londres et en plus c'est la ville la plus chère du monde. Donc on a tourné un petit film français à Londres. Déjà, c'est quelque chose. tout coûte vraiment très cher. Donc c'était vraiment le symbole de l'argent, quoi. C'était la city, quoi, l'argent, etc.
Oui, d'accord.
Et donc,
je trouve que pourquoi le sujet de la prostitution?
Alors, ça, c'est pourquoi Londres, le sujet de la prostitution, parce que, en fait, moi, je viens d'un milieu où ma grand-mère était prostituée. Enfin, voilà, c'est un...
C'est pas en disant moins fort
ouais,
qu'on
va pas l'entendre. Hein, oui, c'est... Oui,
c'est... Non, mais
c'est un sujet à la fois personnel dans ma famille, et ensuite, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, en fait, tout se vend, tout s'achète, et que bizarrement, en fait, sans porter de jugement de valeur, mais c'est un truc où tout le monde est quelque part un peu obligé de se vendre. On devient le propre entrepreneur de soi, de son corps, etc. Ouais. Instagram, les réseaux sociaux. Et je trouve que c'était un sujet qui... Enfin voilà, ça m'intéressait pour ça aussi.
Mais alors, c'était une manière pour vous de réhabiliter votre grand-mère? C'était...
Non, une manière de comprendre. Une manière de l'imaginer, c'était un choix possible. Non, mais je le dis un peu... Ouais. Enfin, voilà, dans un parcours où moi, je viens aussi d'un milieu un peu difficile, etc. Et ça a toujours été une voie possible. Pas que je me suis dit c'est une voie possible, mais c'est pour les filles qui n'ont pas d'argent, etc. C'est-à-dire que maintenant, les étudiantes se prostituent. Enfin, c'est un truc très bizarre qui n'est plus, qui est presque plus complètement marginal.
Et surtout dans une période donnée, c'est-à-dire pendant qu'on est encore jeune, pendant qu'on est encore désirable, il faut faire un maximum d'argent avant que ce soit trop tard.
Voilà.
Pour peut-être ensuite, avec cet argent,
faire quelque chose,
construire un autre projet.
Exactement.
C'est-à-dire que quand on lit les témoignages...
entre parenthèses, en fait.
Et le personnage de Virginie semble ne pas avoir de gros problèmes avec ça, au sens où elle bénéficie d'une qualité de vie, elle a un appartement somptueux, elle a un cadre de vie qui fait que, bon, alors elle ne peut pas dire à tout le monde sa profession, elle est obligée de mentir, mais elle semble y trouver en tout cas son confort en tout cas.
Et en fait, les call girls qu'on a rencontrées en fait avant le film avec Avzia, moi j'avais écrit le scénario de mon côté, et ensuite on s'est confronté au témoignage, et en fait ce que j'avais imaginé c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a un truc où elles mettent leur vie entre parenthèses et elles commenceront à vivre après, une fois que l'argent sera à la banque, elles commenceront à vivre, c'est-à-dire avoir des vrais rapports, etc. Parce que pendant cette période, au-delà de tout jugement moral, il y a un truc où elles vivent dans le mensonge, en fait.
Donc pas d'amour, pas de relation amoureuse,
elles peuvent en parler à leurs parents, pas d'amis en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on demandait, j'ai demandé à une fille et les vacances, oh ben là je pars seule, je préfère.
Et c'est fou.
C'est fou. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a pas un jugement. Il y a quand même un truc qui fait qu'elles mettent leur
repli sur soi, quoi.
Leur affectivité, enfin leur cœur et leur corps.
Oui, parce qu'elles pourraient avoir une double vie entre guillemets, c'est-à-dire vivre la nuit et faire leur métier de call girl et raconter des histoires ou des cracks à des potes, à des copains ou à leur famille.
Mais au bout d'un moment, c'est compliqué, en
oui,
fait.
C'est horrible.
Et ce qui est beau dans le film, c'est que tout d'un coup, le personnage de Virginie commence à vibrer alors qu'elle est conditionnée pour que ça n'arrive pas.
Exactement.
Et elle est elle-même étonnée, surprise. Il y a une réplique qui est très belle quand elle dit, voilà, je ne sais pas comment m'y prendre avec ce garçon. Or, on vient de la voir pendant 40 minutes comme une grande professionnelle qui sait à la fois s'y prendre tendrement ou de façon un petit peu plus sauvage selon les volontés des clients, et qui est là et totalement désemparée comme une petite fille de 14 ans qui rencontre son premier amoureux.
C'est ça, en fait, c'est ça qui m'intéresse.
Ça s'appelle Sex Doll. On va dire que il y a pas de, enfin, je crois pas que ce soit interdit à quel âge que ce soit, parce qu'il y a pas de scène choquante au sens visuel,
au sens visuel
du terme. Après, il y a beaucoup de scènes psychologiquement dures, mais là, c'est quand on rentre dans les personnages, dans ce qui se passe dans la tête, dans cette manière de cloisonner aussi. On se dit faire l'amour, il faudrait quand même le faire avec des sentiments, et puis il y a toujours...
Nagui,
Y a-t-il...
Non mais il est un bourgeois en ce moment,
c'est romantique, c'est 95.
Il y a surtout, je pense, les...
Tellement Jacques Chirac.
95% des hommes clients des prostituées sont évidemment convaincus qu'elles aiment ça, qu'elles font ça parce qu'elles aiment ça. Et on voit bien dans le film que dans les yeux sont totalement hagards, elle est totalement ailleurs. Ça fait partie des questions que vous avez posées aussi, ça, au Call Girl ?
Oui, oui.
Avia ?
Oui, on a vraiment posé toutes les questions possibles, ouais.
Du genre, avez-vous du plaisir à le faire de temps en temps ?
Bah, la réponse, c'est non. Hein.
Non.
C'est non, ouais.
On est désolé de vous le dire.
C'est un non jamais ou c'est où je m'interdis presque, je me prépare.
Ouais, je pense qu'elles sont préparées psychologiquement.
À ne pas avoir de sentiments et donc de plaisir.
Et en revanche, elles ne doivent pas feindre un petit peu une forme d'émotion, en tout cas même dans l'œil, parce que
elles sont payées pour ça.
Parce que le client doit quand même avoir la sensation, en tout cas, que le mensonge est bien fait, quoi.
Oui, ça joue un peu la comédie. Enfin, elle joue la comédie, ouais.
Tout faire avec son image, mentir à la société. Il y a une morale, Sylvie, que vous voulez porter dans ce film.
L'amour, aimer, c'est politique. Voilà.
Wow.
Très bien. Non, mais, ça ne vaut pas la peine que j'en rajoute.
Dans ce monde de putes.
D'accord.
Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Afzia Herzi et Sylvie Verhaed, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, immédiatement, Afzia, quand je pense à vous, je pense à pas mal de films, des films que j'adore. Alors, c'est pas La Graine et le Mulet, que j'aime beaucoup, mais on va en parler plus tard. C'est tout autre chose, c'est complètement dingue. C'est Le Roi de l'Évasion d'Alain Guiraudy, un extrait.
Tu crois sérieusement que tu pourrais coucher avec une fille ?
Bonsoir, mais je dis que ça doit pas être si dur que ça.
Et si ses parents ne sont pas d'accord, ils sont pas d'accord.
Ça va chier. Mon cher, c'est un truc qui file une super pêche.
C'est quoi ?
La dourougne, ça vous dit rien ? Un truc qui fait courir vite et qui rend vachement malin.
Voilà, l'univers complètement barré d'Alain Guiraudy qui a sorti là il y a pas longtemps, Resté Vertical, qui est totalement dingue aussi. Là, dans Le Roi de l'Évasion, j'ai la sensation que c'est vos prémices avec le jeu dans un rapport au corps très très avancé.
Oui, Le Roi de l'Évasion, c'était un peu mes premières scènes un peu d'amour.
Enfin, ouais.
Pas un peu, scènes d'amour. Et c'était trop bien, super tournage, on a bien rigolé.
Donc c'est l'histoire d'un homosexuel qui
tombe amoureux d'une ado. Ouais.
Voilà, d'une ado et qui ne pensait pas être capable de tomber amoureux d'une femme.
Fille, ouais.
Bosser avec Alain Guiraudy, ça donne quoi concrètement ?
Alors c'est très spécial, il est fou, mais dans le bon sens du terme, il est complètement perché, il est ailleurs. Et voilà, donc c'était génial, il a plein d'idées tout le temps, franchement on a bien rigolé.
Et c'est une immersion aussi dans un cinéma vraiment parallèle, encore.
Vraiment la lecture du scénario, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Et quand je l'ai rencontré encore plus, et après, oui c'est vrai qu'il a son univers. Et quand j'ai vu son travail d'avant, je me suis dit ok, il est barré, et c'est ce qui me plaît.
Est-ce qu'il vous plaît avec lui ? Est-ce qu'il plaît ? Quand je pense à vous, Sylvie, je pense à un téléfilm, Un amour de femme avec Hélène Filière. Un téléfilm qui apparemment a eu du mal à exister et à se monter. Est-ce en lien avec le sujet ?
En fait, c'est dans l'autre sens.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ?
C'était un combat de femmes, en fait. Il y avait, Et donc, moi, j'en faisais un sur l'homosexualité féminine et Honoré en faisait un sur l'homosexualité masculine. Et les deux ont été interdits d'antenne.
Carrément.
On l'a fait. Et bizarrement, par contre, ce film-là a été vu vachement
à l'étranger,
dans plein de festivals.
Pour quelle raison interdit d'antenne ?
En fait, tout d'un coup, ils avaient eu un truc d'audace. Qui était de parler de ces sujets il y a quand même un moment.
Ouais.
Et puis finalement, mon film n'était pas spécialement... Mais ils ont fait un retour en arrière.
Départ en arrière.
Alors c'est quand même l'histoire d'une femme qui est en couple, qui... je vais vous retrouver ça. C'est une femme qui est en couple, qui est hétérosexuelle, et qui rencontre une autre femme, alors que tout va bien dans son histoire à elle d'amour. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle lui manque. Et elle se rend compte surtout qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Et il s'avère que ce quelqu'un est une femme. Et c'est une très belle histoire.
C'était avec Hélène Filière et Raphaël Anderson. Raphaël Anderson qui jouait dans Baise-moi.
Et un film comme ça aujourd'hui, ce serait plus facile à montrer,
Je pense qu'aujourd'hui c'est plus... Oui, parce qu'il n'y avait pas de scène explicite, etc. C'est juste que ils avaient eu un coup d'audace et puis il y avait eu un retour...
Très bizarre.
Très bizarre,
C'était en 2001.
Ouais, très bien.
Coup de pression.
Ouais. C'était en 2001. Et c'était, c'était une commande d'M6. C'était une commande d'M6, donc ouais. sur cette thématique
des actionnaires,
de l'homosexualité.
Actionnaires d'M6.
Et c'était 2001. Et finalement, bon, la, la, l'histoire se finit bien puisque le film a vécu à l'étranger.
Oui,
beaucoup,
vachement. Il a été beaucoup vu. Il a été pris dans les festivals, etc. Ouais. Beaucoup vu. C'est,
mais il est toujours visible en, en streaming maintenant, ouais, en VOD. Ouais. Enfin, ouais. il est. Les deux films.
De façon légale, je ne sais pas.
Oui, oui, il est.
Mais c'est quand même très bizarre. On a l'impression que c'est sous le manteau. C'est...
Oui, je sais, c'est très étrange. Étrange.
Alors qu'il est juste question
ça,
d'amour.
Ça donne, ça donne ouais. quelque chose d'encore plus sulfureux à une. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais de ouais. la manière dont vous en parlez, c'est pas plus choquant que ça.
Ah non, pas du tout. C'était une vraie histoire enfin, d'amour.
Quand même,
entre deux
quand
femmes,
même c'est quand même péché.
C'est plus chaud que péché. Hein, mais bon.
C'est juste là, un itinéraire amoureux. C'est...
Ouais. Non, mais j'essaye de comprendre le
moi
mécanisme.
Aussi, j'étais très étonnée.
Le mécanisme en plus, ça a été financé. Ils ont payé entre guillemets pour voir.
Ouais. Et le film est plutôt bien, enfin parce qu'il y a des prix dans des festivals, etc. Mais des festivals gays, lesbiens.
Ouais, voilà. Ils d'accord. étaient frileux, quoi. Ouais.
Ils étaient frileux. Voilà, il y a eu un petit coup de. On n'y va pas.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Un amour de femme.
Et les deux, pardon, que je comprenne bien, c'est deux films séparés ou les deux films sont montés ?
Non, non, c'est deux films séparés. Moi, j'avais une commande pour
d'accord.
les filles et lui une commande pour les garçons.
Bon, d'accord, voilà. Très bien. Non, non, mais je
mais oui, c'est toujours très étonnant.
Je ça, ouais, je
et paradoxalement,
ça
c'est un de vos films qui a le plus été vu.
Je crois, oui, parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup tourné à l'étranger. Ouais.
On va parler de Sex Doll, on va souhaiter en tout cas cette même carrière en termes de masse de vues. Sex Doll, là pour le financement, vous avez pu obtenir des aides de diffuseurs télé. Il y a Canal avec vous ?
Il y a Canal, d'accord. Voilà, j'ai eu l'avance sur recette.
Point.
Canal, point. Et puis sinon, comme il y a une copro anglaise, j'ai eu un peu d'argent en Angleterre.
Voilà. Avec donc Avia Herzi, qui est notre invitée aux côtés de Sylvie Vered, il y a donc ce H-Stimest qui... non mais qui est, non mais il est... ce qui est fort... oui, il joue le rôle de Rupert. Ce qui est fort, c'est que vous réussissez à lui donner un côté très inquiétant au début ouais. du film. C'est vraiment le bad guy. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Tous les problèmes vont partir de ce mec-là. Il a l'air tellement maigre, on se dit, il prend de la coke, il est dangereux, il est surtatoué, on se dit il est forcément dans le milieu, dans la mafia, enfin, on se fait des films dingues, et la pauvre entre guillemets Virginie, donc Afsia, tombe amoureuse, c'est-à-dire pour une fois qu'elle tombe amoureuse, il faut qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui peut représenter le danger. On va pas dévoiler forcément ce qui se passe à la fin, mais il a cette capacité, en fonction de ses expressions, d'être aussi bien dangereux qu'angélique. C'est ça qui est fort. Vous les trouvez où ?
Alors,
un casting sauvage.
C'est un casting. Non, alors j'ai fait un casting à Londres. En fait, j'ai vu beaucoup d'acteurs anglais. Et puis, je venais de faire un film avec Peter Doherty.
Oui.
En fait, il y a un lien.
Le film dont je parlais tout à l'heure avec Charlotte.
Voilà. Et donc, je voulais quelqu'un qui représente vraiment l'Angleterre. Enfin, voilà, ce qui pour moi est l'Angleterre.
Autrement dit, vous avez proposé à Peter Doherty de faire.
Non, au départ, on y pensait, moi et Peter. Puis après, je me suis dit. C'est... Bon, Peter, t'es un peu trop vieux pour le rôle.
Enfin, il est un peu Baby Shambles, quand même.
Et donc, voilà. Mais peut-être j'ai gardé ça dans ma tête. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un casting assez long. Et puis, je trouvais pas vraiment parce que je voulais aussi quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un qui soit... Ça puisse marcher avec Avzia. Parce que Avzia, elle a un truc, c'est qu'elle est... Elle est très enfantine aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc vachement déterminé, vachement fort, et un truc très enfantin. Donc, je voulais... quelque chose comme ça chez le garçon. Donc je ne trouvais pas...
Une forme d'ambiguïté. Ouais.
Voilà, je me suis dit, je vais faire un casting sauvage de rue. Voilà. Et après, j'ai dit à mon fils qui était à Londres avec moi, tape mannequin anglais. J'ai tapé mannequin anglais.
Sur Internet ?
Sur Internet. J'ai vu sa photo. Je l'ai appelé. En fait, il était à Los Angeles. En fait, il s'avère que c'est un mannequin anglais très connu en Angleterre. Ah. Il a fait des émissions de télé, etc. Moi, je ne connaissais pas.
Des pubs et des trucs comme ça,
j'imagine. Ouais, mais vachement d'émissions de télé-réalité, enfin, etc. Okay. Il est vraiment très connu en Angleterre.
Ok.
Et bad boy, vraiment bad boy, bref. Et bon, il était à LA, j'ai fait un fast time avec lui et je l'ai engagé.
Et ben.
Ah oui, comme ça, à distance.
Et 4 jours après, il était à Londres.
Ce et Avzia a eu son mot à dire ? Pardon.
Non.
Bah non, ça me regarde pas de toute façon. Je suis pas mêlée du casting. Hein.
Non. Ça tombe bien parce que tout à l'heure on va parler de ce qui se passe sur Internet aussi en termes de réseau de prostitution. Mm. C'est une, il y a pas que Londres. Il se passe beaucoup de choses sur Internet. On en parlera avec notre consoeur de la rédaction de France Inter, Laetitia Saavedra, qui a mené une enquête et qui a presque infiltré ces réseaux sur Internet. Mais d'abord, voici le nouveau Neil Young. C'est toujours un événement. Neil Young a la même voix. toi, c'est un truc de dingue, ça s'appelle Glass Accident, vous pouvez découvrir. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur Inter, à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Vous découvrez, en fait, avant même que l'album ne sorte, l'album sortira demain.
Avant même qu'il les ait chantés.
Cinq titres de Neil Young. Nous, on vous propose Glass Accident. Écoutez, il y a juste la voix et une guitare, mais c'est bon. To a glass accident. Glass fell in love with the floor. Too many pieces there for me to clean up. So I left a warning message by the door. Danger on a scary skull and crossbones. Covered broken pieces of a love dream lingering there that could do some damage forevermore. Just imagine what could go wrong and how some lives could change forever if you're not careful how you handle delicate thing, but now is better than never. Dark night and threatened everything thereafter. A hope that was confusing, looking like a bright light, blinding you forever with its power. Woke up this morning to a glass accident. Glass fell in floor. Too many pieces there for me to clean up. So I left a warning message by the door. L'album s'appelle Peace Trail, c'est-à-dire le sentier de la paix. Ça pourrait être un chemin que Neil Young a cherché souvent à emprunter. Ce nouvel album sort demain, mais vous le découvrez avant tout le monde sur Inter aujourd'hui avec différents titres qui sont répartis dans nos émissions entre Pop & Co, Boomerang ou Very Good Trip tout à l'heure. Et là, dans la BO, aujourd'hui, c'était ce titre Glass Accident. En tout cas, sa voix n'a pas pris une ride. Alors elle, c'est la fraîcheur incarnée.
Ouais, pas tous les jours.
Des petites ridules, mais pas plus.
Des
ridulettes. Okay. Je vais commencer le
Q10. Ouais, tu nous montreras sur Instagram lesquelles. Voici Alison Wheeler.
Bon, Nagui, je vous le dis, je suis sur un truc vraiment top secret.
C'est-à-dire ?
Avec le remaniement, tout ça, vu qu'ils cherchent des profils dispo, là, d'urgence au gouvernement, tout est possible. Je me dis qu'il y a moyen que je sois nommée au ministère NB, non ?
Si.
Okay. En tout cas, ma première mesure, ce sera cette chanson, un encouragement à un grand homme, Bernard Cazeneuve, qui a une énorme responsabilité. Est-ce que, et je l'aime d'un amour inconditionnel, ça veut dire beaucoup. Wow, wow. Ministère NB, Bernard, mon baby Cazeneuve, Manuel t'a refilé son poste sans préavis, au calme total. Le mec a cru qu'un ministère, ça se file comme un herpès buccal. Petit front tout dégarni, t'as retroussé des manches à fond. T'as pris le Beauvau par les cornes, tu l'as ramené à Matignon. Toi Bernard, tu réponds présent lorsqu'il y a un drame. T'es pas comme le RERB, tu nous fais pas le coup de la panne. T'es mon héros, toi je pense. J'ai le corps en état d'urgence, car c'est sur toi Bernard que s'est posé mon cœur. Toi, mon ministre de la beauté intérieure, tu seras pour moi comme ma reine d'Angleterre. J'adore que tu sois là, même si je sais pas à quoi tu sers. J'avoue, c'est mon style, les hommes blancs de plus de 50 ans. En plus, c'est un peu trop rare dans ce gouvernement. Je dois te dire qu'on est fiers au nom de tous les intermittents. Enfin, un mec a un gros salaire en étant figurant. J'avoue, je suis jalouse de ton obéissance. Tu rappliques illico, t'es le plan cul de la France. Mais c'est pas pour autant que tu joues les caniche. Non, t'es un saint, Bernard, viens donc entre mes muches. Je te promets que ça ne passera pas la nuit debout. Et pour me sortir ta matraque, t'auras pas besoin d'excuses, mon chou. Bernard, Bernard, remanie-moi tout de suite. T'es mon héros quand à toi je pense. J'ai envie que tu m'assignes à résidence, car c'est sur toi Bernard que s'est posé mon cœur. Toi, mon ministre de la beauté intérieure. Cœur sur toi Bernard, enfin un chauve en hommage à tous les Français qui s'arrachent les cheveux au chômage. Oh oui, prends-moi les cours pour les inverser. Je suis comme les gens qui votent Fillon, j'adore me faire avoir. Je vais te dire si l'amour rend aveugle mon gars. On va pas se mentir, je suis Gilbert Montagnier de toi. Je t'aime parce que tu donnes l'exemple mon Bernard. Accepter un poste qui est juste une mise au placard, c'est gentil à toi d'être solidaire. Des millions de Français qui sont en galère. Mais toi t'as la classe parce que tes indemnités, c'est un salaire à vie sans dégressivité. T'es mon héros quand à toi je pense. J'ai le corps en état d'urgence, car c'est sur toi que s'est posé mon cœur. Toi, mon ministre de la beauté intérieure. Oh, remanie mon sentimental. France Inter Love.
Bravo. C'est bon ça.
Bravo. France Inter Nagui, la bande originale.
Pourquoi l'équipe comme, la nomination de Bernard Cazeneuve a servi à quelque chose.
Énorme.
Non, mais parce que j'ai inspiré Ronal en ce moment.
Quel groove.
Il faut, faut tourner le clip.
On va faire ça.
Il faut une chronique politique.
C'est une dispo à Zia.
Avec plaisir.
Ferais-moi.
Moi, je veux bien.
Et Sylvie veut bien réaliser.
Sylvie le réalise.
Ta voix m'a complètement convaincue. Ouais.
Et moi, je le diffuse dans ta ratata. Voilà, c'est à ton plan média. Tout est fait. Afsia Herzi et Virginie. Pardon, Virginie est le personnage. Sylvie Vered est la réalisatrice de ce film Sex Doll sorti hier. On va évoquer quelques dates avant de parler avec Laetitia Saavedra de la prostitution banalisée. J'ai l'impression que Daniel Morin attend avec impatience les contacts de Laetitia.
C'est moi qui lui file les miens. Alors.
Mais, mais d'abord, on va partir dans les années 87, 89, 87. C'est la naissance d'Afsia Herzi. Et apparemment, Julien Clerc était présent dans la BO.
Le sais. Ah oui. Sa façon d'être à moi parfois
j'adore,
me déplaît.
Ah oui.
Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi.
Vous débarquez dans une famille à Manosque, donc vous avez grandi à Marseille, voilà, élevé par votre maman. Vous avez perdu trop tôt votre papa. L'éducation que vous avez reçue vous donne envie même de réaliser un film. Vous en avez parlé ici la dernière fois, puisque votre maman algérienne d'origine est femme de ménage et vous voulez mettre à l'honneur ces femmes.
Ces femmes-là qui pour moi sont dans l'ombre. Et qui, y en a beaucoup en fait. Bon, dans le film, c'est l'histoire d'une femme maghrébine, mais bon, toutes les origines. En fait, souvent, ce sont dans les quartiers difficiles. En tout cas, il y a beaucoup de femmes seules et qui, font des ménages ou d'autres métiers difficiles. Et du coup, qui sont très courageuses et que moi j'appelle un peu les fantômes de la société parce que personne. Les calculs, en fait, n'y prêtent attention.
On passe à côté sans les voir.
Voilà, c'est ça.
Ils sont invisibles.
Ouais.
Ouais.
Certains même vivent dans leur propre appartement et ne se rendent même pas compte qu'elles sont là, ou qu'elles passent ou qu'elles font le job. On vous surnommait, c'est vrai, l'actrice quand vous étiez petite.
Oui.
Pourquoi ? Parce que vous la racontiez un tout petit peu ? Vous étiez...
Parce que non, bah, j'ai... tout le monde savait que...
Vous déguisiez vous
que je voulais faire ça. Et du coup, bah, vu qu'il n'y avait rien à faire, bah, on s'inventait des histoires, on faisait des scènes en bas du quartier et tout. Et voilà, on s'inventait des vies.
Dans ces années 80, fin des années 80, Sylvie, vous écoutiez...
Rien à voir.
Prince. Ça fait partie de la BO de votre vie, ça. Ouais. Elle, oui. Elle nous fait le playback.
Oui, ouais. Et la Corée. Ah oui, oui, j'étais fan, complètement fan.
Vous êtes inscrit à 17 ans à la fac pour avoir une licence de géo. Et vous étiez copine avec l'excellente Noémie Lovski.
Complètement.
Quel vivier, j'ai envie de dire.
Et en fait, j'ai joué dans son premier court-métrage comme actrice.
Oublie-moi.
Voilà. Et ça m'a plu, en fait. Je me suis dit, si elle le fait, moi aussi, je peux le faire.
D'où la Fémis.
Moi, j'ai pas fait la Fémis.
Ah, d'accord.
Non, elle était à la Fémis. Ouais. Mais comme elle m'a. J'ai travaillé un petit peu sur son court-métrage. Et donc, du coup, ça m'a donné envie et j'ai écrit un court-métrage. Moi, j'ai pas fait d'école.
Dis-moi oui, dis-moi non.
Ça, voilà, ça c'était le court-métrage de Noémie. Moi, j'ai écrit un court-métrage et j'ai eu l'avance sur recette. Ce qu'on appelle l'avance sur recette, c'est-à-dire des sous pour faire un premier court-métrage. J'ai fait mon premier court-métrage, j'ai eu un prix Canal. Donc, c'était de l'argent pour faire un deuxième court-métrage. Et après, j'ai écrit un premier long-métrage. Et j'ai eu de l'argent pour le faire.
Et on a l'impression, raconté comme ça, on a l'impression que tout allait vite. Or, j'ai l'impression inverse, moi, c'est que vous prenez vraiment votre temps entre différents projets. Il peut y avoir 5-7 ans entre deux projets parce qu'ils sont difficiles à monter ou parce que vous êtes perfectionniste et vous voulez prendre votre temps?
Bah, pour tout un tas de raisons. En fait, comme moi, je ne pensais pas du tout faire du cinéma. Pas du tout.
C'est raté.
Oui, voilà. Non, mais j'ai pas fait d'école, j'étais pas dans le milieu, etc. Donc en fait, j'ai eu des coups de chance sur scénario. Je suis arrivée au cinéma par l'écriture. Donc j'ai fait un film, mais en fait, une fois que le film a été fait, j'avais pas plus de contacts, plus de etc. Donc c'est toujours un peu, voilà, c'est au projet en fait. Voilà.
En 2007, à Via Herzi, vous êtes révélée au grand public tout en écoutant.
En boucle.
En boucle.
Oui.
Umbrella. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de covers, tellement de versions différentes d'Umbrella. Maintenant, vous pouvez toujours. Ça reste une très bonne chanson.
Ah ouais.
De Rihanna. Vous recevez le prix Marcello Mastroianni lors de la 64e Mostra de Venise pour votre rôle dans La Graine et le Mulet, dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça en concurrence avec de grandes stars. Ça doit faire bizarre, non, d'être nommé au milieu d'un.
Complètement. Mais en fait, j'étais pas nommée. Je l'ai su le jour de la remise des prix. Et ça parlait italien, je comprenais rien. Et après, je voyais que tout le monde me regardait. Ah, et j'ai dit, bon, bah, faut se lever.
soit c'est un signe, soit t'as une feuille de salade coincée entre les dents.
Je comprenais rien, ouais.
Soit t'as le prix.
Et c'était trop beau, franchement, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto en fait. Et j'étais vraiment très émue et je me rappelle que ça a surpris des gens en fait. Mais pour moi, c'était. C'était fort en fait.
Mais alors, on dit toujours, ouais. Je ne m'attendais pas à avoir le prix, mais en même temps, on y va, on s'habille, on se prépare et.
Je suis arrivée en survêt.
C'est pas vrai.
Si, si, je suis arrivée en survêt parce que je connaissais pas Venise, tout ça. On m'a dit, viens, il faut revenir. Je dis, ok, je suis arrivée en survêt. J'avais rien.
À quel moment on se dit, Venise, c'est une ville à survêt. À quel moment on se dit ça?
Le survêt de Marseille.
Mais je connaissais rien, moi j'étais chez moi.
Quand
en Marseille.
Tu prends ton billet d'avion chez Decathlon, c'est ça.
On m'a dit, bon, bah viens, on m'a dit de revenir, je savais pas. Je connaissais rien du tout. Et après, bah, heureusement qu'il y avait mal attaché de presse. Mais qu'est-ce que c'est horrible. Hop, ils m'ont enfilé une robe et voilà.
Vous vous souvenez des stars que vous aviez croisées là-bas, cette Mostra? Kate Blanchett.
Il me semble que j'ai croisé Brad Pitt. Je suis pas sûre.
Il vous semble.
Ouais. Mais pas la remise des prix, il est venu. Ouais, je l'ai vu. Oui,
non, mais on va lui remontrer une photo pour voir si vous le reconnaissez. À ce moment-là, en 2008.
Il était en tongs, lui, comme c'est.
Moi, je connaissais personne.
Hein.
Je connaissais
que les grands films. En Bermuda. Claquettes et pantacours.
Chaussettes, claquettes.
Ribéry style.
En 2008, Sylvie Verrette, vous écoutiez Christophe. Le piège était facile. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette chanson. Tu es tombé dans mes. Se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. 2007, après une parenthèse de 7 ans, voilà, c'est vraiment ce dont je parlais, mais c'est aussi peut-être le temps de l'écriture, parce que vous signez le scénario.
J'ai eu un enfant.
Ça a duré 7 ans?
Non, quand j'ai maternité. Voilà, bon,
de Scorpion, c'est ça, avec Clovis.
J'ai écrit le scénario. Ouais. En fait, j'ai écrit le scénario, je devais le faire avec Joey Starr. dans le rôle principal. Et puis au dernier moment, on n'a pas eu le financement. Donc moi, j'ai laissé le scénar. Parce que voilà. Et donc le film a été fait, mais je ne l'ai pas réalisé.
Clovis Cornillac qui pour l'occasion s'était mais fait une espèce de carrure de
très très inquiétant, ouais, très inquiétant dans le film. Ouais.
Je l'ai adoré, j'ai adoré. Vous réalisez Sans froid, ça par contre c'est vous qui le réalisez, un téléfilm, toujours dans l'esprit du polar avec Laurence Mette et Benjamin Biolay. C'est d'ailleurs c'était un effet révélateur pour Biolay.
En fait, c'était la première fois qu'il tournait.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le mettre en scène ?
Eh ben en fait, je l'ai entendu dans une émission de télé, je ne sais plus laquelle, et je me suis dit, mais il est bizarre ce mec, en fait, il est très désagréable, elle ratait ta claque. Et je me suis dit, mais c'est une arnaque ou pas ? Et ça m'a vachement intéressée. Et donc, je l'ai rencontré, et on s'est hyper bien entendu.
Très bien. Les points de départ de vos idées, pour en revenir à Sex Doll, le film qui est sorti hier, le point de départ, ça a été un article, un reportage.
C'est
vraiment l'histoire de votre grand-mère, l'histoire personnelle.
Il y a tout ça, et puis vraiment, c'est Paris Hilton, en fait, bizarrement.
Alors, expliquez-moi.
Non, mais c'est-à-dire que...
Je savais pas qu'elle était call girl.
Non, pas du tout, mais c'est une espèce de glissement pour les filles où tout d'un coup, ce qu'on montre en exemple, c'est que c'est faire une sextape. Il y a tout un espèce de truc comme ça, très très bizarre.
Ah, mais ça, c'est la génération je suis connue sans avoir rien fait pour être.
Oui, mais c'est pas rien fait, il faut faire
c'est
une sextape.
C'est comme les sœurs les Kardashian.
Voilà, c'est ça.
Les Nabila et tout ça.
Oui, mais c'est un monnayage du sexe, en fait, quand même. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas connues juste parce qu'elles chantent bien.
Non, ni parce qu'elles sont comédiennes, ni parce qu'elles ont fait quelque chose de particulier.
Voilà, et il y a quand même un rapport au sexe. Il y a quand même un rapport au...
Ouais, y compris dans la manière dont elles se mettent en scène dans
tout
les selfies.
Tout à fait. Et puis il y a la sextape obligatoire. Et puis il y a. Voilà, en fait, il y avait un truc.
Ah oui,
comme
mais
ça,
elle est obligatoire, mais volée.
Exactement.
Il faut faire une sextape. Et en même temps dire. Bah, mais je l'ai rangé où ?
Et vous, dans votre travail, vous tournez des sextapes aussi ?
Non,
non vous ne faites pas ça.
Ça t'intéresse ? Tu cherches un réalisateur ?
Je cherche, voilà. Comme ça, je lance le message.
Alors, Laetitia Saavedra, merci de venir nous expliquer l'enquête que vous avez menée, qui a été diffusée en novembre.
Oui.
C'est ça. Sur nos antennes chez Jacques Monin dans Secret d'Info où vous avez infiltré un réseau sur internet et vous avez déposé une annonce. Généralement c'est le même genre d'annonce, c'est-à-dire jeune fille d'une vingtaine d'années propose des massages à domicile.
Oui, en fait tout est parti d'une rencontre que j'ai faite avec les parents d'une jeune fille qui a déposé une petite annonce en fait sur l'équivalent du Bon Coin qui s'appelle Vivace Street, qui est un site de petites annonces gratuites, et elle a menti sur son âge, elle a dit qu'elle avait 20 ans, qu'elle faisait des massages, et puis elle a montré en fait cette annonce à ses parents en disant qu'elle se prostituait parce que par un petit réseau de cités en banlieue, elle avait connu une escorte qui lui avait fait miroiter qu'elle gagnait 8000 euros par mois, et donc elle voulait devenir escorte, et donc elle a montré cette annonce à ses parents, qui du coup ont fait des captures d'écran, qui ont pénétré son Facebook, etc., et qui se sont effectivement aperçus qu'elle était rentrée dans un de ces nouveau petit réseau de cités qui est en train de se développer comme ça sur Internet. Donc, ses parents ont porté plainte contre Viva Street, le site qui a diffusé cette annonce masquée. Hein, c'était donc pas une vraie annonce de prostituée en tant que telle,
sauf
ni de mineure.
Sauf qu'eux ne savaient ni qu'elle était mineure,
exact.
Ni que c'était de la prostitution.
Exact. Moi, ce que j'ai voulu voir, c'était si c'était facile, de déposer comme ça aujourd'hui une petite annonce plus ou moins cachée, mais quand même assez explicite de prostitution, et deux, si c'était facile aussi de se faire passer pour une adulte alors qu'on est mineur. Donc, je suis allée sur Viva Street, pour ne pas le citer, puis sur un autre site qui s'appelle...
Pour ne pas le citer quatre fois. Ils sont servis. Hein.
Ça s'appelle Sugar Daddy. Sugar
Allez,
Daddy,
un
Sugar
deuxième.
Daddy, ouais. Ça vient des États-Unis.
Alors moi, c'est clair, Sugar Daddy.
Et non, Sugar Daddy, en fait...
Ah bon ?
Sugar Daddy, c'est des messieurs qui ont un peu d'argent et un certain âge et en fait qui proposent d'aider des jeunes femmes sans argent. Alors tout ça, aider, ça masque beaucoup de choses. Et donc j'ai déposé une annonce qui était la même.
Ça s'appelle la charité.
En contrepartie. Même si vous gâterez.
Donc j'ai déposé cette annonce où j'ai dit, voilà, j'ai 19 ans, je suis brune, je reçois chez moi. C'est le code sur ce genre de site.
Pour être clair, le Sugar Daddy, c'est clairement un site de prostitution ?
Non, pas du tout. C'est un site d'accompagnement, d'échange de cadeaux.
Mais dans ce que vous dites, c'est bidon.
Légalement, en tout cas, ce n'est pas un site de prostitution. De même que Viva Street n'est pas... La rubrique Erotica de Viva Street, qui est la payante sur le site, n'est pas un site, n'est pas une rubrique de prostitution.
D'accord.
Sauf que quand on va derrière, la plupart des annonces de masse, passage. Moi, j'ai fait appeler un collègue pour savoir qui se cachait derrière ces annonces. Là, c'était sans ambiguïté. Et moi-même, la petite annonce que j'ai passée en disant « je n'ai pas mis de photo », j'ai simplement dit que j'avais 19 ans, que je recevais chez moi. Et en quelques jours, j'ai reçu une centaine de réponses de clients potentiels qui tout de suite, spontanément, m'ont pas dit « tu veux aller au cinéma boire un thé, voir une expo ?» C'était « tu prends combien ?» et qui me demandaient très clairement et très explicitement quelles étaient mes pratiques sexuelles. Je vais juste dire une chose, je n'irai pas dans plus de détails, mais que tous voulaient de la sodomie sans préservatif. Voilà, ça c'est le grand truc apparemment. Donc c'est assez cru. C'est là où on s'aperçoit que
On s'aperçoit qu'il est 11h49 et qu'on est sur Internet.
Le rapport. Désolée. Je n'irai pas plus loin. Ça a été. Ça a été bien plus cru que ça sur la centaine. Hein.
Mais de toute façon, les annonces de massage, on sait que ça cache quelque chose, hein, même sur Paris.
Et donc je suis allée un petit peu plus loin, c'est que je me suis dit là c'est clair. Sur ces sites, on me demande tout de suite quels sont mes tarifs, quelles sont mes pratiques sexuelles. Et c'est pas genre comme le Minitel Rose, on s'excite un peu derrière son écran. C'est tu es libre quand, quelle date.
On prend rendez-vous.
Ça va très vite, quoi. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Et ensuite, avec une dizaine d'entre eux, je suis allée plus loin. J'ai dit qu'en fait, je n'avais pas 19 ans, mais que j'avais 15 ans et que je pouvais venir avec une copine qui avait 14 ans. Comme ça, je me suis dit, je vais bien voir.
Si je vais les choquer volontairement.
Ce qui est arrivé à la gamine dont les parents portaient plainte. Est-ce que c'est si facile que ça? Écoutez, sur 8, il y en a juste un qui m'a dit, tu n'as rien à faire là. Les autres m'ont dit, oh, c'est un petit peu jeune. Il y en a un qui m'a dit, miam miam, un beau bébé, ça vaut cher.
Mon Dieu.
Et c'était pas des gens qui venaient là chercher des mineurs. C'était un peu l'occasion.
Qui faisait de larron.
Si je puis dire.
Ouais. Et vous êtes resté ami avec certains.
Vous en avez retrouvé de France Inter.
Alors,
mais reconnu.
Vous avez signalé les profils de ces personnes-là.
Alors, non, je ne suis pas flic, donc ça, je ne l'ai pas fait. C'est pas mon métier.
Mais c'est pas une question, pardon.
Ce qui est quand même pas si difficile que ça, c'est que aujourd'hui, c'est pas difficile de mettre un policier. Moi, ça m'a pris quelques heures, quoi.
La police pourrait le faire, vous voulez dire.
C'est pas compliqué à faire. Il suffit de mettre quelques personnes. Alors, je suis allée les voir. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils disent, honnêtement, c'est compliqué parce que ces annonces, elles n'ont rien d'illégal puisqu'il s'agit de massage et que les filles ont 20 ans. Ou 19.
Il faudra organiser des rendez-vous pour les piéger.
Aux États-Unis, ça vient d'être fait avec l'équivalent d'un des sites que j'ai cité, pour ne pas le reciter. Ça vient d'être fait pendant 2 ans. La justice californienne a passé des fausses annonces d'hôtesse, etc. Et ils ont amassé un certain nombre de preuves. Donc moi, j'ai eu une centaine de clients. Eux, ils en ont amassé beaucoup plus. Et le patron de ce site est sous les verrous.
D'accord.
Depuis le mois d'octobre. D'accord. Donc ça peut être fait.
Donc ça arrivera dans une quarantaine d'années en France. Un jour, c'est un peu sur retard entre les États-Unis et la France. Pour en revenir à celles qui sont les victimes, celles qui se prostituent, quel est le profil des filles qui sont, si on peut faire un profil, des filles qui se cherchent à se prostituer sur Internet? Elles sont d'un milieu social particulier? Elles sont dans un état de fragilité psychologique? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui pousse ces filles à aller sur ces sites et se prostituer?
Alors, qu'est-ce qui les pousse? Alors là, je pense que vraiment, ça peut être très vaste, les motivations. Déjà, il peut y avoir rien dans le frigidaire. Ça, c'est peut-être la première des motivations. Il peut y avoir aussi, pour certaines qui ont besoin de payer leurs études, on parle de prostitution d'étudiantes, se dire qu'on va gagner un peu plus rapidement beaucoup d'argent qu'en 2 heures de babysitting. Faut le dire aussi.
Des belles robes, des choses.
Il peut y avoir l'attrait de l'argent, entre guillemets, facile. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aussi ce qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté avec certaines pour qui c'était... Elles ne pensaient pas qu'elles se prostituaient, en fait. C'était... comme une sorte de marchandisation, ce que vous disiez un peu.
Oui, un glissement, en fait.
C'est pas forcément...
On ne veut pas reconnaître que c'est de la prostitution.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
on se ment à soi-même.
Tu offres un service, tu récupères de l'argent.
C'est se mentir.
Non, mais tu offres un service, je ne sais pas si c'est se mentir, mais c'est ton corps,
Et c'est un peu, je fais ce que je veux de mon corps.
C'est une
voilà.
marchandise.
C'est une marchandise.
C'est la réification. Et après,
ça fait penser au film d'Emmanuel Berco, Mes chères études, où on voyait justement cette étudiante qui se prostituait.
Pour de l'argent.
Pour de l'argent. Beaucoup, oui, c'est le principe.
Alors, après, il y a aussi les mères qui élèvent seules leurs enfants. Je ne dis pas que toutes le font, mais en tout cas, il y en a certaines qui vraiment n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui, au 15 du mois, n'ont plus rien. Et qui, certains week-ends, alors pendant que les enfants partent en vacances, etc., passent des petites annonces pour.
Est-ce que les nouvelles lois, et notamment la pénalisation des clients, la loi date d'avril dernier, est-ce que ça a lancé encore plus, ça a poussé ses clients à aller sur Internet, sur ce genre de réseau?
Alors écoutez, du peu que j'ai pu en voir, il semblerait que ce soit le cas, pour une raison très
avant,
simple.
Un avant et après la loi?
Oui, même un peu avant la loi, puisque à partir du moment où la loi a été débattue, ça a commencé à être débattu en 2011. Et puis vraiment, ça a été fortement débattu en 2013 jusqu'à ce que ça soit voté. En fait, les clients ont commencé à avoir peur d'être pris en flagrant délit dans la rue. Et ça, un certain nombre de prostituées, y compris des prostituées dites traditionnelles, qui sont dans leur petite camionnette à Vincennes, le constataient. Donc ils ont commencé, en fait, ces clients, à aller un peu plus qu'avant, ça a déjà commencé il y a 15 ans, Internet, fin des années 90. Mais là, ils ont commencé à y aller un peu plus et à déserter un peu plus les rues. Et apparemment, là, d'après moi, les prostituées de rue qui m'ont parlé, certaines ont dû même elles-mêmes arrêter de travailler au Bois de Boulogne où elles n'avaient plus assez de clients pour se mettre à 100% sur Internet et où elles retrouvaient d'ailleurs des clients du bois parce que...
Et peut-être même une forme de sécurité
Alors, bizarrement, on pourrait penser qu'il y a plus de sécurité, mais d'après ce qu'elles m'ont dit, en fait, il y en aurait moins. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans la rue, au bois par exemple, et qu'un client refuse de vous payer, ou même qu'il vous tabasse parce que vous résistez, vous dites « mais non, tu vas me payer ».
Il y a du monde autour,
Il y a du monde autour. Ouais. Alors que sur Internet, la personne, quand elle est en tractation sur Internet, elle ne peut pas voir la personne, alors qu'elles ont développé une sorte de sixième sens qui leur permet un peu de jauger dans la rue.
Donc il n'y a pas de psychologie possible à ce moment-là.
Deuxièmement, elles sont chez elles et assez isolées. Et quand elles sont chez elles, les voisins ne sont pas forcément au courant. Elles n'ont pas claironné partout. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas tout un truc quand même très hypocrite? La prostitution est illégale, le client est pénalisé.
Non, la prostitution n'est pas illégale, puisque se prostituer n'est pas illégal.
Et elles payent leurs
impôts. Il n'y a plus de délit de racolage et elles payent des impôts.
Et elles payent des impôts, c'est ça. Mais par contre, le client, lui, est pénalisé.
Oui. Avec la nouvelle loi, avant...
C'est quand même une hypocrisie. C'est-à-dire, parce que là, j'ai un chiffre sous les yeux qui est juste dingue. C'est un rapport du ministère de l'Intérieur qui date d'il y a 2 ans, qui dit que le chiffre d'affaires de la prostitution sur Internet est évalué à 540 millions d'euros.
C'est la moitié du chiffre d'affaires estimé de toute la prostitution. Oui. Et c'est exponentiel. Oui, c'est vraiment exponentiel parce qu'Internet est un démultiplicateur. Pourquoi ? Parce que ça permet l'anonymat. Une personne qui veut se prostituer sur Internet, elle risque pas de croiser au coin de sa rue ou de son bois son voisin. C'est plus facile.
Alors, il y a le côté justement éviter que la famille le sache ou les amis. Donc, est-ce que les Françaises ne vont pas un peu comme dans le film Sex Doll, vont plutôt à Londres comme ça, elles risquent pas de retomber sur des membres de la famille. Et en France, c'est plutôt je crois qu'il y a 80% de prostituées étrangères.
Alors c'est ce qu'on dit, oui. Ouais. On dit qu'il y aurait 80% de prostituées étrangères. Moi, honnêtement, les petites annonces que j'ai beaucoup lues sur Viva Street et sur Sugar Daddy. Alors d'abord, les filles évitent de montrer leur visage.
Oui, c'est ce que je dis, pour pas être reconnues par les membres de la famille.
Pour pas être reconnues, mais donc elles sont en France. Hein, vous voyez, elles sont...
Pourquoi la photo, qu'est-ce qui vous prouve qu'elles sont en France ?
Parce qu'elles disent où elles sont.
Non, mais qu'elles sont françaises.
Ouais, mais on ne sait pas si c'est vrai. Déjà, on ne sait pas si elles sont vraiment.
C'est parce que moi, le collègue que j'ai fait appeler, qui les a fait appeler, elles indiquaient où elles étaient, et elles étaient bien là.
D'accord.
Ah oui, et puis pour les rencontrer. Vous avez même aujourd'hui des applications sur téléphone qui permettent. Ça vous géolocalise. Et vous entrez vos critères et vous dites je veux.
À 300 mètres de chez toi, il y a ça.
Est-ce qu'il y a deux formes de prostitution aussi, celle de luxe qui est dans Sex Doll et celle du Bois de Boulogne dont vous parlez tout à l'heure, celle de la rue?
Alors c'est encore plus compliqué que ça parce qu'il y a celle de luxe, les escortes de luxe sur Internet qui font payer très cher. Souvent, c'est des filles de l'étranger, des filles de l'Est qui font maintenant ce qu'on appelle des sex tours. C'est-à-dire que c'est des tours qui sont organisés.
En tournée, et bientôt dans votre ville.
C'est ça ?
Dans chaque capitale d'Europe.
Dushka donc... Non, pas Dushka, c'est une... Non.
Dushka, non, c'est une autre enfance.
Non, pardon, une autre, je cherche un prénom.
Il salit tout.
Mais non, Dushka...
Il y a toute la prostitution intermédiaire. Il y a ces filles-là qui se font payer en roses et pas en euros. Je prends 200 euros la demi-heure et 1000 roses la journée. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les occasionnels. Enfin, il n'y a pas les très pauvres et les très riche, hein. Il y a aussi une classe moyenne, si je puis dire.
Merci Laetitia Saavedra. Daniel et Albert n'attendent qu'une chose, c'est vous parler hors antenne pour savoir vraiment les adresses et les contacts que vous avez pu relever pendant
moi, j'ai
votre...
des clients, si vous voulez.
Ça peut m'intéresser, vous savez, ça paye pas la radio.
Sex Doll, Joker. Sex Doll, le film est signé Sylvie Vered avec Afia Herzi. Elles sont toutes les deux nos invitées jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale avec Leïla Kadouboudadiri, Alison Wheeler, Daniel Morin, Albert Algour, Charles-Marc nous accompagne au clavier. Et nos invités sont Afia Herzi et Sylvie Vier. Sex Doll.
Tu m'apprennes ça.
Sex Doll est sorti hier avec Ash Stimest dans le rôle principal masculin. Carole Rocher, j'ai envie de dire votre actrice fétiche maintenant que je sais qu'elle est systématiquement dans.
C'est ma meilleure amie.
Dans tous les films. En plus,
c'est votre totem.
Oui, voilà.
C'est marrant parce qu'elle vous ressemble un peu.
On se connaît depuis très très longtemps, il y a un mimétisme.
Ouais.
Et alors je ne vais pas citer toutes les comédiennes et les comédiens. Vous avez cherché, c'est Lindsay Caramo qui est la jeune fille aussi dans le film. Est-ce que vous avez fait votre casting en Angleterre ou vous avez cherché à le faire France
J'ai fait un petit casting en France et principalement en Angleterre. Et Lindsay, en fait, je l'avais vue dans le film de Céline Sciamma, Bande de filles. Et je l'avais trouvé super, donc voilà, c'était assez simple en fait.
Quand on décide, quand on écrit un film autour de la prostitution, on peut aussi se dire, il y a tellement eu de films autour de la prostitution, de Belle du jour, avec Buñuel et Catherine Deneuve au début de sa carrière, jusqu'à la Polonide pour Afia Herzi, se dire, je vais apporter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, où il y a une crainte ou pas. Vous me direz, les histoires d'amour, il y en a eu des millions. Il y a aussi au cinéma des crimes aussi, mais...
Non, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas comment ça se passe, c'est plutôt qu'est-ce qu'elles ont dans la tête, en fait, et comment... qu'est-ce qu'elles font de leur cœur, en fait. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Voilà.
Et en fait, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, un conte, un conte de fées, où elle finit par rencontrer l'amour, où on peut dire, ça finit bien, même si ça commence mal. Voilà, c'est important de le dire. Est-ce que cette même histoire et cette même magie aurait pu fonctionner dans un autre domaine, et pas spécialement autour de la prostitution ?
En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était des gens, que deux personnes se rencontrent, des gens qui sont pas faits pour aimer. Et donc, elle, par son métier, c'est les risques du métier, c'est-à-dire qu'elle est obligée de fermer et son corps et son cœur. Et lui, en fait, dans le film, c'est un ange déchu, en fait, c'est quelqu'un, voilà, on se dit, il est bizarre, il est pas... Voilà, c'est deux personnes vraiment
flippant,
pas... Voilà, il est flippant.
Ils sont entravés, tous les deux.
Voilà, exactement. C'est deux personnes qui, normalement, sont pas faites pour aimer et ont survécu parce qu'ils se sont dit, bon, le cœur, c'est terminé pour nous. Et ce qui m'intéressait, c'était que le personnage que joue Afia, c'est qu'elle ouvre son cœur et son corps, d'ailleurs.
Ouais.
Chanson que vous chantez dans le film, signée Elie Medeiros, il faut le rappeler, même si l'interprétation est de Lio. Il y a une bande musicale très, très présente, et heureusement, on est à Londres quand même, il y a de la musique. Lescope, dans son propre rôle, j'ai envie de dire.
Un guest.
présent dans le film également, il y a également...
Interprété par Sylvie.
Ouais.
La BO, comment se construit une BO dans un film? Et ça, ça a un rôle aussi très important, ça oui. détermine une humeur, une ambiance dans
oui.
une scène.
Oui, vachement, en plus, d'autant plus que les deux personnages principaux n'expriment pas leurs sentiments. Donc en fait, la musique est là pour, plus que dans d'autres films où il y a beaucoup de dialogue, là il y a peu de dialogue, et elle est là pour exprimer leur intériorité. Et voilà, donc j'ai travaillé avec un compositeur qui a fait la musique du film, avec qui j'ai travaillé.
Vous êtes d'accord, Afia Herzi, en disant que c'est un conte de fées, que c'est une fille totalement paumée qui cherche qu'une chose, c'est-à-dire être heureuse, point.
Voilà, ouais, pour moi c'est un conte de fées, une romance, une histoire d'amour, et une fille paumée qui, je pense, ne sait pas ce qu'elle cherche en fait. Qui vit parce que voilà, il faut vivre et...
Qui est dans la survie en fait.
Voilà.
Et puis ça reste un film quand même avec deux très jolies filles, ce qui
un film de cinéma. Il faut dire que c'est ça qui est important de dire aussi sur ce film, c'est que au-delà de l'histoire, c'est tourné, c'est du cinéma, ce qui n'est pas le cas de tous les films qui sont à l'affiche.
Voici l'humeur de Daniel Merci. Laurent.
Merci beaucoup. Merci.
Décidément, la jeunesse française est décevante. Je dis pas ça pour Leïla, hein. Il y a de cela quelques jours, on apprenait que les écoliers étaient des cancres en maths et en sciences. Et bien hier, on apprenait que les Français voyaient également fondre d'autres espérances. Ce qui était une de nos fiertés hier ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Les chiffres sont là. Ils se mettent de plus en plus tard, les enfants, à la drogue et à l'alcool. C'est l'Observatoire français des drogues qui a publié ces chiffres officiels. Nos traditions foutent le camp. Maintenant, un jeune attend d'avoir plus de 15 ans pour fumer son premier joint ou boire son premier verre d'alcool. J'ai demandé ce qu'il en pense à mon ami rock critique Jean-Philippe Manœuvre. Jean-Philippe, bonjour.
Salut Dany, hello everybody.
Jean-Philippe, les chiffres sont tombés, ils sont implacables. La jeunesse française se met de plus en plus tard au cannabis et à l'alcool. Ça vous inspire quoi ?
Ben, un gros malaise. C'est un rejet des valeurs, quoi. On se demande, mais que fait la jeunesse ? Au fait, à quel âge ils s'y mettent ?
À plus de 15 ans.
Wow, les boules, big bollocks !
Vous pensez que ça a des conséquences sur leur mauvaise performance en maths et en sciences ?
Mais of course, Dany ! Le pétard, il n'y a rien de mieux pour comprendre un exercice de mathématiques. Pour ce qui est de la physique et de la chimie, l'idéal pour une compréhension rapide, c'est un bon verre d'alcool. Moi, le pétard, j'ai commencé à 7 ans, l'alcool à 5 ans, et je peux te garantir qu'à l'école, j'étais une fusée !
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, que j'ai quitté l'école super vite.
Est-ce que le fait de s'y mettre de plus en plus tard au pétard et à l'alcool peut avoir des conséquences physiologiques et même physiques ?
Mais grave ! Le cannabis, c'est essentiel pour une bonne croissance. Un ado qui fume des pets, c'est un ado équilibré. La beuh fait partie des 5 fruits et légumes par jour indispensables à une bonne hygiène de vie.
Ah, voilà, vous avez rétabli la vérité. Merci Jean-Philippe. Alors, que faire pour essayer de récupérer le niveau que notre jeunesse avait avant en la matière ? Parents qui m'écoutez, vous avez une responsabilité, vous ne pouvez pas ignorer le phénomène. Vos enfants qui sont à la traîne en matière de cannabis et d'alcool, c'est toute une génération qui traîne des pieds pour ralentir le futur de tout un pays. Réagissez. Parents, vous qui êtes des exemples, des modèles pour vos enfants, montrez-leur la voie, montrez-leur le chemin. Donnez l'exemple, et ce par des gestes simples, des gestes du quotidien. Profitez des fêtes et de ces vacances qui approchent pour agir. Le matin, quand tout le monde est autour de la table de la cuisine, profitez-en pour manger tous ensemble un grand bol de céréales avec pétales de maïs, blé soufflé et morceaux de shit. Rapidement, l'ambiance sera festive et le cannabis synonyme de bien-être. Autour du feu, papa, bourrez donc une bonne pipe avec de la beuh. La fumée opaque envahira la pièce et laissera un léger fumet envoûtant pendant toute la période des fêtes. Sachez, papas et mamans, que l'éducation peut aussi passer par le jeu. Mettez en place des règles festives pour montrer à vos enfants le fun que procure l'alcool. Par exemple, pour tout ce qui est tâches ménagères, imposez la règle de une pièce, un shot. Quand vous passez l'aspirateur ou vous faites les carreaux, chaque fois que vous avez fini avec une pièce, buvez un shot de vodka, de rhum ou de tequila. Si vous avez un grand appartement avec beaucoup de pièces, le ménage ne sera plus une corvée, mais un joyeux moment. Bref, un quotidien banal peut s'avérer hyper jovial quand on consomme drogue et alcool. Si on ne le dit pas aux enfants, ils ne le savent pas, tout simplement. L'éducation, Nagui, c'est la clé.
Et la drogue, c'est de la merde. Merci, Daniel. Merci, Albert.
Sur France Inter.
Dans les projets que vous avez, vous mettez beaucoup de temps, Sylvie, à travailler, à monter. Est-ce que vous avez déjà à monter vos projets ? Avez-vous déjà l'idée du sujet, en tout cas, ou du prochain sujet que vous aimeriez évoquer au cinéma ?
Ben non.
Aucune idée.
Si, non, j'ai plusieurs projets, pistes, voilà. Mais je ne sais pas encore lequel va faire.
Afia Herzi, vous serez prochainement à l'affiche de Fleuve Noir d'Éric Zonka, de Philosophe de Guilhem Meslan, L'amour des hommes aussi de Mehdi Banatia. Vous n'arrêtez pas. Vous allez tourner votre film ? Vous l'avez commencé ?
Alors, j'ai commencé une partie parce que j'avais une actrice enceinte et voilà, on l'a filmé enceinte, tout ça. Et là, on a attendu qu'elle accouche et bientôt, normalement, la suite. Voilà.
Et Abdelatif Kechiche.
Oui.
C'est vrai ?
Le retour, oui, c'est vrai.
Vous allez tourner à nouveau sous sa direction ?
Oui, je tourne avec lui en ce moment, ouais. Avec lui, ouais, dans son prochain film, ouais.
Et de quoi est-il question ?
Le sujet ? Mm-hmm. Le sujet, c'est l'histoire, en gros, d'un adolescent qui veut devenir metteur en scène. Voilà. Moi,
et
je
vous
joue sa tante.
Tata.
On m'a vieilli.
Très. Mais comme le disait Sylvie, et vous pouvez aussi bien être l'ado, la femme que la tata. C'est, bah, ça s'appelle être comédienne.
Bon, l'ado, pas trop là, en ce moment, mais bon.
Si,
ça marche très bien.
Des baskets, ouais. Des baskets, un jean, un sweat, ça fait.
Faut pas trop s'approcher hein, avec la caméra.
C'est une menace que vous faites. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudedi.
Abdia, Sylvie, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par vous, Sylvie, un son pour vous.
Never leave me alone. What happened? What took you so long? Never leave me alone. I know it sounds stupid, but I thought you understood that.
C'est Karl Barra, l'autre moitié des Libertines, acteur dans For This Is My Body de Paul Murray. Vous avez fait tourner, on en a parlé tout à l'heure, Pete Doherty, Biolay. Dans le film, on voit Lescope.
J'ai un problème avec les chanteurs.
Ouais, ouais, c'est ça.
Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Et qu'est-ce qu'ils ont en plus, ces acteurs, pour figurer quasiment à chaque fois
Bad boys, un peu, quoi.
Au casting de vos films?
Oui, ben en fait, oui non j'ai un problème avec les chanteurs, bon voilà ça c'est dit.
C'est pas vraiment un problème si.
Non, c'est-à-dire qu'en France en fait ce qui est bizarre c'est que les choses sont très cloisonnées.
Oui.
Donc on a des acteurs soit intellectuels, donc qui sont intello etc, soit physiques. Et la réunion des deux, en fait c'est le chanteur. C'est à la fois physique, c'est-à-dire qu'il peut courir, taper etc, et à la fois il lit des livres.
Mais
vous voyez ou pas ?
Est-ce que c'est
n'empêche
que
vous n'avez pas dit
ouais.
À Leïla quel chanteur vous aimeriez
ouais, quel chanteur
ouais, quel chanteur ferait un bon comédien selon vous ou trouverait grâce à vos yeux ?
Bah pas mal de chanteurs en fait puisque ouais. Vraiment interpréter une chanson c'est quand même donner son cœur, enfin c'est vraiment il faut être fort pour chanter une... voilà enfin
et vous
moi,
pensez à qui vous tente dans votre problème avec
Stromae, j'adorerais.
Voilà. Mais il est devenu réalisateur.
Oui, il est devenu réalisateur. Ah, oui. Ouais. Il arrête de chanter, il devient réalisateur.
C'est vrai ? Moi, il en a marre.
On poursuit avec un son pour vous, Arzia.
Sans me raconter l'histoire, j'avancerai dans la nuit.
Vous l'avez reconnu, Abdia ?
Oui, Benjamin Paulin. C'est
Benjamin
ça
Paulin, ouais. Absolument, Variation de Noir. Vous êtes l'héroïne de ce clip qui consiste en quelque sorte en un plan serré sur vous.
Et plus, ouais. Et deux actrices. Hein. Il y avait Rossi de Palma et Zoé Félix, je crois. Ouais.
Ouais. Et être comme ça appelé pour figurer dans un clip, ça veut dire qu'on passe aussi une étape, on devient une forme d'icône ou de muse pour il y a encore ce mélange là entre la comédie et la musique.
Bah en fait là pour la petite histoire pour ce clip, c'est d'ailleurs le réalisateur qui est un ami qui s'appelle Fernand qui m'a appelé en catastrophe un soir à 22h, qui m'a dit écoute Afs, il y a une actrice qui m'a laissé tomber, faut que tu me rendes service. Donc en fait j'ai fait la
route de course.
Oui. Donc c'était pas du tout un désir de... Et j'ai dit bon bah écoute j'arrive, ça va. Il m'a envoyé la chanson, j'ai dit bah ça me plaît et tout. Il m'a dit oui c'est pour un jeune chanteur, tout ça, là on est en galère, on n'a pas d'argent. J'ai dit bah j'arrive. Quand il n'y a pas d'argent, on m'appelle moi de toute façon, tout le temps, et j'arrive. Donc voilà, et c'était un plaisir, c'était super, très belle rencontre avec Benjamin et j'aime beaucoup son univers.
Voilà, alors justement, vous parlez de la musique et de la chanson française qui vous touche beaucoup. Je vais vous faire un petit cadeau, Afzia. C'est le dictionnaire amoureux de la chanson française chez Plon, signé par l'excellent Bertrand Dical, un de nos confrères de la Maison de la Radio. Il y a un article sur Julien Clerc qui étudie un peu l'évolution de Julien Clerc et le pourquoi de sa grande renommée et de sa grande carrière. Il y a un lien aussi avec Benjamin
Merci
Biolay,
beaucoup.
Donc ça vous réunit un petit peu toutes les deux à travers la musique. Et pour
Merci.
Vous, Sylvie, j'ai pensez à un bouquin, c'est Ataraxia d'Alizé Meurice aux éditions Léo Cher. L'histoire est assez dingue. On imagine une société moderne où finalement c'est un monde ataraxique qui est dénué de toute émotion, où la reproduction ne se fait plus de façon classique, ce n'est plus la reproduction entre un homme et une femme ou par d'autres méthodes, il y a une sorte de plan néonatal qui est instauré dans cet univers-là, qui consiste à dire que les couples sont formés sans distinction de genre, de façon aléatoire. On leur confie des enfants qui sont nés dans des labos nurseries, donc il n'y a qu'une seule image possible dans les écrans télé, c'est le film Casablanca. Donc on est dans un univers un peu aseptisé et il y a des militants, violateurs et les exciteurs qui cherchent à maintenir ce qu'il y a d'originel entre l'homme et la femme et la femme, dans le côté primitif de la sexualité. Et donc voilà, Et c'est Dalizé Meurice, qui est une plasticienne aussi par ailleurs.
Nos invités sont Avia Herzi et Sylvie Verret. Elle signe Sex Doll, le film est sorti hier sur tous les écrans et raconte cette histoire d'une fille paumée puisqu'elle se prostitue à Londres et qui va finalement apprendre à se connaître et à trouver les vraies valeurs qu'elle a en elle, celle de la vie et donc celle de l'amour.
Parola, anga chufe, parola. Nebe mirile, kanula, ne kanonyo berela. Mirila Javala Jafuruño Javamani Debife Nebe Mirila Shirila
s'appelle Jarabi et c'est Abou Diarra avec Toumani Diabaté.
C'est pas le Gypsy King ?
Non. Nous parlons de Sex Doll, le nouveau film de Sylvie Verret avec Afsia Herzi, avec de très belles images parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Leïla, c'est du cinéma.
Ouais.
Mais il y a de très très belles images qui n'ont pas toujours été simples, j'imagine aussi, à filmer dans les situations dans lesquelles vous êtes, avec une caméra à l'épaule. On est dans le mouvement par certains moments, on est dans la contemplation par d'autres. C'est ce qui fait aussi l'écriture, votre écriture dans ce cinéma.
Une fluidité vous avez... de l'image,
ouais.
Plastiquement parlant. C'est un très beau film.
Et beaucoup de mouvements aussi.
T'as raison, c'est vraiment du cinéma. Et c'est cinématographique.
Ouais.
Et la lumière, puis cette histoire, encore une fois, de cette jeune fille qui se prostitue, cette jeune fille française qui se prostitue en Angleterre dans un réseau de prostitution de luxe. Et on le voit, Daniel, la prostitution est en train de devenir pour les jeunes filles un métier d'appoint pour survivre. Ça, c'est ça qui est dramatique. Elle cherche de l'argent.
Oh putain!
Oh mon Dieu!
Putain, vous êtes bons! Vous êtes le Evelyne Delia de la fulgurance intellectuelle, c'est important de le rappeler, ça. Même si aujourd'hui, comme disent les jeunes, vous dites de la merde. Oui, la réalisatrice, pas du tout, la réalité est dure, la vie est un combat. Moi-même, je me souviens, j'ai dû louer mes charmes à l'époque où je faisais mes études, quand je préparais l'ENA.
Voilà.
École nationale d'arnaque. École où d'ailleurs vous êtes conférencier, monsieur Guy. Oui, je n'avais pas le sou, et pour joindre les deux bouts, j'ai dû poser un voile de pudeur sur ma vertu et retirer mon slip. Je n'ai pas pu résister à la pression, la demande était trop forte. D'habitude, je distribue l'ivresse d'essence et l'émotion érotique provoquée par les vibrations de mon corps tonique, comme celui du bouquetin et souple comme celui du félin, de façon gratuite, juste comme ça, pour le plaisir de partager ce torrent de bonheur que mes ondulations dignes d'une anguille provoquent. Mais là, tiraillé par la faim et la mort dans l'âme, j'ai dû demander de l'argent. Eh ben, c'était plutôt cool, pas dramatique du tout. Hein, et je suis pas le seul à avoir connu les vicissitudes de l'amour monnayé, n'est-ce pas, Maréchal ?
Affirmatif.
Je crois qu'à un moment de votre vie, vous avez dû vous résoudre à faire... Comment dire ça, sans heurter votre fierté de soldat à
Mais arrêtez de tourner autour du pot, Morin. J'ai fait le tapin, j'ai fait le tapin. Il n'y a pas de honte, même pour un militaire de carrière.
Ah bon ?
Mais oui ! En plus, je vais vous dire une bonne chose. J'y ai même pris un certain plaisir.
C'était quoi comme genre de clientèle ?
Oh, il y avait de tout, vous savez, c'était l'indo, hein. Des hommes mariés, des femmes seules, des prêtres, des couples mixtes, des couples gays, des couples trans, des couples des touristes chinois, des plombiers polonais, des animateurs égyptiens, de tout.
Et vous preniez cher ?
Oh, ça c'est clair.
Ça y a pris cher.
J'ai pris cher.
Non. Vous preniez beaucoup d'argent pour vos performances ?
Une fortune. On venait de loin pour partager une heure de plaisir avec la reine de la brouette tonkinoise, la sulfureuse Suzy Gangbang.
C'était qui celle-là ?
C'était moi.
Ah mince.
Suzy Gangbang, c'était mon pseudo. J'étais rousse, toujours en barésie, camouflage. Ça rendait les officiers dingues de désir. Je portais des talons au stiletto de 16 cm. Pas facile de marcher dans la gadoue avec 16 cm de talons. J'étais maquillé comme une roulotte de manouche. On aurait dit Julie Pietri. Bon.
Et vous en gardez un bon souvenir ?
C'est gratuit. J'en garde surtout des maladies dégueulasses. Mais j'en garde un excellent souvenir. Je me suis fait plein de copains.
Merci Maréchal. Vous voyez Monsieur Guy, au départ on hésite, mais au final c'est loin d'être dramatique. Une fois encore, désolé. Vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Daniel pour avoir bien le goût.
La bande originale. Nagui.
Pour Afia Herzi et Sylvie Verrette, des questions courtes avec des réponses courtes, ce sont nos cascades. Et on commence par Alison Wheeler.
Afia, votre expression marseillaise préférée ? Votre mot ?
Rapide.
Pardon, je suis très lente. Hein. Qu'est-ce que je veux ? Arrête de m'emboucaner.
Ah, emboucaner.
Voilà.
Ou alors je suis en suqué aussi.
Je suis en suqué, là, j'en peux plus.
Albert. Quand est-ce merci que Marseille
Sylvie, dans votre chambre d'enfant, vous aviez des photos d'Alain Delon et de Roger Moore. Mm-hmm. Vous gardez des photos duquel des deux aujourd'hui ?
Oh, les deux, je prends les deux.
Albert. Merci. Allez, ça suffit. Des excuses à présenter. Oh, ça suffit.
Je suis désolé pour le pont du Rialto, la place Saint-Marc, tous les autres monuments de la Sérénissime. Afzia, voilà, nous l'a bien dit, Venise. C'est une villa survette. Je suis désolé pour Patrick Cohen, Nicolas Demorand, Bernard Guetta, Thomas Legrand, dont les noms n'ont pas été cités par Laetitia, notre spécialiste prostitution sur Internet. On vous a quand même reconnu, les gars, mais attention, attention. Vous allez vous faire rigoler par vos femmes. Désolé pour Nagui, enfin, qui a découvert, avec ce qu'a dit Afzia et Sylvie, que l'on pouvait être encore plus odieux que lui. Depuis, il est tout triste, le choupinou, on va lui remonter le moral.
Merci Sylvie Verrette pour cette visite. Merci. Merci. Merci Anne-Laure de te réveiller encore de rôle. Merci à Pierre Herzi.
Merci à vous.
Merci mille fois. Sex Doll et sur les écrans depuis hier. Demain, nous recevrons Anaïs de Moustier et Jérémy El Kaïm pour un film d'animation, une jeune fille sans les mains. C'est un conte de Grimm adapté au cinéma par des dessins extrêmement originaux. Voilà, ouais. On en parlera demain. Vous inquiétez pas.